blessée jusqu'au fond du cœur. D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle. Et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile. Et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire perdue. L'un me rend malheureux, l'autre indigne des jours. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fais qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Il vaut mieux courir au traitat. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. On dirait que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon brave, sauvons du moins l'honneur. Puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance. Et tout honte d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène.
Bonjour, vous écoutez bien l'émission Vendémiaire sur Radio Canus en 2.2 MHz. Aujourd'hui, 13e émission consacrée à Elsa Triolet, avec nous dans les studios Maria Berlioz et Jean Knopf de l'association Salette. En ouverture de cette émission, vous venez d'entendre, vous l'avez peut-être reconnu, Gérard Philippe dans son interprétation du Cid. C'était à Chaillot, au TNP, le 22 janvier 1955, et cette illustration incongrue a néanmoins un rapport avec notre sujet du jour, Elsa Triolet dans ses années 50, que Maria et Jean vont vous expliciter. Je leur donne la parole, bonjour à vous.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre et bonjour à vous tous, public qui nous écoutez depuis un moment. Eh bien, Jean va nous parler tout à l'heure de Elsa Triolet et l'art dramatique. Elle va être critique dans tout ça et elle va écrire un mot à sa sœur Lily. Elle lui écrit le 15 septembre 1948 et lui dit ceci. « Je me suis mise d'accord avec les lettres françaises. J'y entre comme critique dramatique. »
Voilà. Alors, c'est un aspect d'Elsa qui est peut-être moins connu. Elsa Triolet a la passion du théâtre, je dirais même la passion du spectacle, puisque avec Aragon, on les a vus très fréquemment dans les théâtres parisiens, dans les grandes premières. Passion du théâtre et également passion du spectacle. Hein. On sait que, par exemple, Elsa adorait Johnny Hallyday, par exemple. Hein, au début de la vogue yéyé, ils étaient très assidus à tous ces concerts. Mais donc, comme vient de vous le dire Maria, de 48 à 51, elle va tenir régulièrement, donc chaque semaine, hein, puisque les lettres françaises, c'est un hebdomadaire, elle va tenir la rubrique théâtrale. Puis c'est quand même très... Il faut une assiduité, il faut aller au théâtre quand même 3, 4, voire 5 fois par semaine, donc c'est quand même très très lourd. Et ensuite, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 68, Elsa ira assez régulièrement au théâtre, et quand un spectacle lui plaira, ou au contraire lui déplaira très fortement, elle écrira dessus. Et donc il y a d'ailleurs à la Société Aragon, on est en train de publier les chroniques théâtrales d'Elsa qui ont été partiellement publiées chez Gallimard, mais il manque beaucoup d'articles d'Elsa et on a déjà publié notamment des articles sur Elsa Triolet et Roger Planchon et une autre série sur Elsa Triolet et le TNP de Jean Villard. Donc sur la période 48-51 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout de même une époque importante et j'ai envie de dire une époque bénie, parce que c'est les débuts du Festival d'Avignon et la création du TNP. Donc en novembre 51, le TNP ouvre en novembre 51 à Suresnes, hein, puisque le palais de Chaillot n'est pas encore disponible, ils n'iront qu'à partir d'avril 52. Et Elsa donc va suivre cela de près. Et puis il y a également sur le plan théâtral une compagnie qui est capitale à l'époque dans l'histoire du théâtre. C'est la compagnie Renaud-Barreau. Hein, Jean-Louis Barreau et Madeleine Renaud ont quitté la Comédie Française et ils ont fondé leur compagnie, la compagnie Renaud-Barreau qui crée Shakespeare, Claudel, etc. Et puis également, Elsa adore le théâtre de boulevard, qui, à l'époque, est quand même encore dans sa grande période. Hein. Il faut pas oublier que des auteurs comme André Roussin, Marcel Achard, sont quand même des auteurs qui sont pas uniquement des amuseurs. Hein. Bon, c'est du théâtre bourgeois, mais c'est du théâtre bourgeois qui est bien écrit, qui est rarement vulgaire. Enfin, même, bon, ben si... Chez la bourgeoisie, il y a beaucoup de vulgarité des sentiments, mais enfin bon, c'est quand même un théâtre qui tient la route. Et puis, évidemment, il y a l'éclosion, via le TNP de Jean Villard, l'éclosion de Brecht, hein, qui va dominer la scène française jusque dans les années 80. Même, il y a un véritable culte de Brecht, hein, le brechtisme, où tous les metteurs en scène, etc., montent, y compris les classiques, à la manière de Brecht. Cela dit, Elsa prendra beaucoup de distance par rapport à cette mode qu'elle aime pas forcément, parce que nous, on en sait quelque chose dans la région lyonnaise. Il y a pu y avoir quand même autour de Brecht des spectacles extrêmement ennuyeux, hein, et très très dogmatiques et didactiques. Alors voilà, là l'extrait, avoir entendu Gérard Philippe, bon évidemment... Elsa et c'est on va vous lire une partie de sa critique. Elsa a assisté à la première du TNP, donc à Suresnes. Il y a eu un week-end à Suresnes avec alors qui comportait Maurice Chevalier, hein, puisque Elsa et Aragon étaient très amis avec Maurice Chevalier, le Cid, donc qui était donné pour la première fois à Paris. Et Mercourage qui était créé, c'était la création de Mercourage, avec Germaine Montero. Je crois d'ailleurs que tout à l'heure on entendra chanter Germaine Montero. Voilà. Alors, Elsa a écrit avec enthousiasme, évidemment, sur Gérard Philipe et son interprétation du Cid.
On attendait le Cid. On attendait Gérard Philipe. C'était comme si je ne l'avais jamais ni lu, ni vu, ni entendu. Ce que j'avais devant moi, sur une scène sans décor, dans une scène de faste de l'espace vide, c'était une légende d'amour. Comme Tristan et Isolde, un amour de flamme pure, l'amour à la hauteur de leur amour. Loin, loin des vertueux héros scolaires de l'ennuyeux devoir dont la hauteur n'est pas certaine, loin, loin des controverses et de la gloire classique, voici le jeune Rodrigue, l'expression même de la loyauté, si bien que pendant des siècles, les Espagnols jureront par la foi de Rodrigue. Le Cid de Corneille, avec Gérard Philipe, a retrouvé sa jeunesse d'antan. Il a l'âge de Gérard Philipe. Ce grand acteur, ce phénomène du jeune art dramatique français, correspond si totalement à l'idée que l'on se fait du héros, que l'on oublie l'acteur, pour ne voir que Rodrigue, chevalier de tous les temps. Si vous voulez voir un spectacle admirable, dépêchez-vous d'aller voir le Cid dans la mise en scène de Jean Villard avec Gérard Philipe et Françoise Spira.
Oui, Françoise Spira qui jouait Chimène. Il y a eu d'ailleurs plusieurs Chimènes puisque le Cid a été énormément joué. D'ailleurs, l'enregistrement, la captation qu'on vient d'entendre donc était de 55 et le Cid a été joué 4 ou 5 saisons de suite et a tourné quasiment dans le monde entier. Donc voilà, et donc au cours de ce même week-end, la description qu'en donne Elsa est très intéressante. Et puis ils rencontrent, ils vont par exemple manger avec Fernand Léger. Enfin bon, c'est il y a le tout Paris des lettres qui est là. Et on donne Mère Courage d'ailleurs, ça a failli très mal tourner, puisque c'est l'œuvre d'un communiste allemand et que suite à la présentation de Mère Courage, les autorités conservatrices vont demander la démission de Jean Villard qui passe pour un crypto-communiste, en fait, etc. Tous les adjectifs pleuvent et donc cette Mère Courage qui sera aussi un très très gros succès, qui sera donc est interprétée par Germaine Montero et Gérard Philipe qui est une vedette de cinéma. Je sais pas si ce serait possible aujourd'hui. Joue également dans Mère Courage, il joue un petit rôle, le rôle d'Elif, qui est un des deux enfants de, puisque le titre exact c'est Mère Courage et ses enfants, un des deux frères. Enfin, un des deux fils, quoi. Il y a deux enfants. Et donc, c'est un week-end absolument exceptionnel, ce week-end de Suresnes. Et c'est d'ailleurs un des derniers articles que publie Elsa dans sa chronique régulière, hein, puisqu'elle va arrêter un mois plus tard, en décembre 51. Mais elle reviendra au TNP régulièrement, bien sûr, pour couvrir. Mais toujours avec un œil critique. Hein, c'est pas une groupie complètement aveugle, parce qu'il y a par exemple Jean-Jacques Gauthier, le critique du Figaro, qui déteste le TNP, donc quoi qu'il fasse, c'est moche. Elle est dans la nuance toujours. Elle manifeste une grande liberté. Donc voilà pour cet aspect d'Elsa, critique dramatique. Alors aujourd'hui, on va aborder plusieurs choses. Hein. Alors ça n'a pas de rapport direct avec la critique d'art dramatique. On va parler maintenant du Moulin. Hein, du Moulin de Saint-Arnoult en Yvelines. Donc, faut pas oublier, on a évoqué ça dans des émissions précédentes, ils sont installés dans un petit appartement de 2 pièces à Paris, rue de la Sourdière, dans le 1er arrondissement. Et bon, évidemment, enfin, on imagine facilement les bouquins, les manuscrits, ils sont complètement envahis. Et puis, en plus, bon, à Paris, Elsa se plaint aussi beaucoup des coups de téléphone incessants, etc. Ils ont du mal à travailler. Donc ils ont envie d'un pied à terre à la campagne. Et donc grâce à la correspondance avec Lily, hein, on apprend justement ce désir d'Elsa de bah, de trouver un petit quelque chose dans les environs de Paris.
Alors, elle lui écrit « Le temps qui me reste passe à rechercher une maison de campagne. Une ou deux fois par semaine, je pars pour la journée, sans Aragocha, à 50, 60 kilomètres de Paris et je visite des propriétés. Ou bien c'est cher et plaisant, ou bien c'est bon marché et pourri. Ou bien il y a tout ce qu'il faut et ce n'est pas dans nos moyens. Ou bien il faut faire tellement de travaux que ce n'est encore une fois pas dans nos moyens. Et pendant ce temps, les livres font des piles qui grandissent carrément sur le plancher. Je jette des collections de revues, je perds des lettres importantes. Tout ce qui arrive chez nous disparaît instantanément dans un monstrueux amas de papier que nous ne savons où mettre, qu'on ne peut même pas fourrer nulle part. »
Voilà, mais Elsa va s'acharner. Et donc, elle écrit ça en 49 et il faudra attendre 1951 pour qu'elle trouve la perle rare donc qui sera le moulin.
Oui, un beau jour arrive donc ce 25 juillet 1951 et elle se dépêche d'écrire « Ma petite Lily chérie, la maison est achetée. »
Et alors là, il y a 12 points d'exclamation après le « acheter ».« La maison est achetée », 12 points d'exclamation.
À quel point elle doit être heureuse.
Oui.
Cette fois-ci, nous avons versé un acompte et la promesse de vente est signée. Nous emménagerons le 20 août. En attendant, Aragocha est parti déposer là-bas des livres qui étaient à même le sol depuis des mois. Côté négatif de la chose, nous nous endettons jusqu'au cou. Côté positif, Aragocha revit. Il est extrêmement heureux et fier. Il rêve du matin au soir et me supplie d'acheter pour une fois sans regarder à la dépense tout ce dont j'ai envie pour mon cabinet de travail. Il espère qu'un beau bureau m'incitera à recommencer à écrire.
Voilà, donc ce moulin, bon, il faut en dire deux mots parce qu'il est toujours vivant. C'est une propriété de l'État, hein. Aragon en a fait don. Elsa y mourra le 16 juin 1970. Et entre 1951 et 1970, ils vont y aller très fréquemment, hein, s'y réfugier, écrire également. Et aujourd'hui, donc, il est dirigé par Bernard Vasseur, qui sait le faire vivre, hein, c'est-à-dire c'est pas simplement une maison culte que l'on va, où on va en pèlerinage. Hein, il y a des expositions permanentes, des échanges, des colloques, c'est un lieu qui est vivant. Hein, c'est un lieu qui est vivant et qui vaut vraiment la peine d'être visité. Hein, c'est vraiment.
Mais c'est suffisamment vaste pour organiser, recevoir du public.
Il y a des grandes salles et puis il y a un jardin quand même. Un jardin de 6 hectares, je crois, qui est... Alors, il y a quand même un inconvénient, c'est qu'on est quasiment obligé de s'y rendre en voiture. Donc, c'est entre Dourdan et Rambouillet. C'est d'ailleurs on en parle souvent à la radio à l'occasion des bouchons. C'est le bouchon de Saint-Arnoult en Yvelines. Hein. C'est pas très loin du péage. Mais bon, c'est vrai qu'en transport en commun, c'est vraiment très compliqué. Parce qu'il faut descendre à Rambouillet. Bon, alors après, je sais plus. Je crois Enfin, le mieux d'ailleurs, c'est de prendre un taxi. Bon, donc ça complique un peu les choses. Mais alors, c'est un vrai moulin. Hein. C'est un vrai moulin. Et donc, qui est d'ailleurs traversé par un ruisseau, la Rémarde, hein, qui se jette dans l'Orge, qui est un affluent de la Seine. Et ça se situe très précisément, hein, donc à 49 kilomètres de Paris. Donc Elsa raconte que ils sont arrivés, bon, c'était abandonné, des broussailles, etc. Et Aragon s'est mis à débroussailler, enfin il s'est complètement. Et donc ils y ont passé quand même, je pense des grands moments, des moments importants avec leurs amis qui étaient d'ailleurs souvent des gens. Je pense à Edmond Charleroux, Guy Béard, François Nourricier, enfin d'ailleurs des gens qui n'étaient pas forcément des communistes, hein, c'était, et évidemment ils y sont enterrés, hein, puisque c'était le coin de terre française d'Elsa, disait Aragon, et elle y est enterrée, et lui il l'a rejoint 12 ans plus tard en 82. Voilà, mais ça on peut inviter nos auditeurs, s'ils en ont l'occasion, d'y aller, hein, parce que vraiment c'est un beau moment, hein. Puis quand il fait beau, parce que je crois qu'il ferme pendant l'hiver, quand il fait beau, il y a des manifestations qui sont souvent, d'ailleurs, moi je sais que j'étais allé un dimanche, c'était une journée qui était consacrée aux sans-papiers, et il y avait en même temps des textes qui étaient dits par le comédien François Martouret et qui étaient accompagnés au piano par une virtuose qui était une ancienne femme de Malraux, je ne sais plus laquelle parce que je crois qu'il y en a eu plusieurs, et qui avait 98 ans. Et donc tout ce monde-là était mélangé, enfin c'était vraiment très très bien. Il y avait d'ailleurs Edmond Charleroux, voilà, et c'est vraiment un endroit qui est vivant, quoi. C'est pas du tout le côté clos, un peu bon culte, etc. Voilà, donc le moulin, je pense, c'est quand même important d'en parler, quoi, d'en dire deux mots. Et puis bon, ben là, la transition, elle est difficile à faire.
Parce qu'il faut acrobatique, sauf si on l'a fait avec une pause musicale.
Oui, ben par exemple, ce serait mieux, parce qu'on va parler de Staline.
On écoute Germaine Montero.
Capitaine, à cette bataille, tes fantassins laissent les souffler. La mer courage pour la piétaille à des godasses qui tiennent aux pieds. Couvert de gales, rongé de vermine, ils traînent tes canons s'ornaclés. Si à la mort faut qu'ils cheminent, ils veulent au moins de bons souliers. Le la neige fond sur tous les morts et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins. Mon capitaine, c'est la famine. Tous tes héros crèvent de faim. La mer courage a de la farine. Et pour le cafard, elle a du vin. Un boulet dans un ventre vide. Mon capitaine, c'est malsain. Quand je leur aurai rempli les tripes, fais-les crever, moi je m'en fous bien. Le printemps vient, debout chrétien, la neige fond sur tous les morts et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins.
Germaine Montero interprétait Brecht et Serrault pour les traductions, je pense. Et oui. Dessau, Brecht, Serrault, Besson, il y a trois noms. Et Paul Dessau pour la musique, donc un extrait, la chanson de Mère Courage, de la pièce de Brecht. C'est un enregistrement qu'elle a fait, je ne sais pas exactement en quelle année, mais presque, tous les cas, c'est elle l'interprète de l'époque dont on parlait. Je redonne la parole à Jean et Maria pour la poursuite. Là, on va aller à la rencontre de Staline.
Voilà, on va rencontrer Staline, enfin, on va... C'est le 5 mars 1953, on peut plus le rencontrer puisque c'est le jour de sa mort. Et donc là, il se passe un accident, bon, qui concerne surtout Aragon, mais dans lequel Elsa va jouer un rôle important. Aragon, donc, qui dirige les lettres françaises depuis cette époque. Aragon a souvent été un personnage très important dans les lettres françaises, mais il prend la direction donc à partir du début des années 50. Il demande par l'intermédiaire de Pierre Dex, puisque c'est surtout Dex qui avait une relation très amicale avec Picasso, il demande donc à Picasso un portrait de Staline destiné à être mis en première page. Bon, ben Picasso dessine le portrait qu'il envoie à Dex. Dex le fait donc mettre en première page. Et il se trouve que quand on regarde le détail, le bâtiment des lettres françaises est dans les lettres françaises sont imprimées dans le même bâtiment que France Nouvelle. Qui est à l'époque, bon, ça a disparu, qui est un hebdomadaire du parti. Et quand les ouvriers, les typographes de France Nouvelle voient le portrait, là il se passe quelque chose. C'est l'émeute. Et Elsa donc reçoit le premier exemplaire des lettres françaises donc qui sort des presses. Et là,
elle est rue Sourdière, donc elle habite toujours là. Et le journal arrive, il est encore taché d'encre. Ouais. Et elle comprend tout de suite ce qui va se passer. Et elle le dit d'ailleurs. J'ai su aussitôt que nous allions vers un drame. Le peuple communiste de France va être choqué. Le rejet de ce portrait est unanime. D'ailleurs. Jean Albertini, que nous avons si bien connu, avouait lui-même qu'il avait été choqué à l'époque où il était encore étudiant. Qu'est-ce que vous voulez ? Picasso et Aragon ont attenté au sacré. Donc, s'il y avait des dessins à faire, c'était peut-être pas sur quelqu'un de cette ampleur, surtout dans son pays.
On comprend bien aujourd'hui que certaines représentations de personnages peuvent déclencher.
Et alors elle écrit encore à ce propos, c'était au mieux comme si on avait, à l'occasion de sa mort, publié une photo de Staline en culotte courte. Donc vous imaginez un petit peu l'incidence que ça a dû faire à l'époque. Tout le monde n'avait pas compris l'art. Présenté comme ça à ce moment-là. Et alors, il y a encore Pierre Dex, qui lui était rédacteur en chef aux lettres françaises, donc très près de, à la fois de Picasso et d'Aragon, oui. Et mon Dieu, il a servi d'intermédiaire, justement, entre Aragon et Picasso. Et du coup, il raconte. Mais enfin, Elsa, Staline n'est pas Dieu le Père. Elle m'interrompit. Justement, si, Pierre. Personne ne va lire ce numéro. Personne ne va même réfléchir à ce que signifie ce dessin de Picasso. Il n'a pas déformé le visage de Staline. Il l'a même respecté. Mais il a osé y toucher. Il a osé, Pierre. Est-ce que vous comprenez ?
Voilà, alors cette querelle nous paraît aujourd'hui un peu démesurée, bon,
oui,
surtout.
D'autant plus que ce portrait, il avait rien d'infamant.
Non, il a rien d'infamant. Oui, oui.
À part qu'il ne représentait pas Staline à l'âge où il est décédé, mais un personnage plus jeune. Mais je vois pas bien pourquoi ça les a tant contrariés.
Mais alors, je pense que derrière, quand on regarde un peu, et là, il faut Pierre Juquin, dans sa biographie d'Aragon, il explique très bien le contexte. Et le contexte, il est en fait en amont. Et il touche la question de l'art. Qu'est-ce que l'art finalement? Qu'est-ce qu'un art communiste? Qu'est-ce qu'un art socialiste? Qu'est-ce que le réalisme socialiste? Faut quand même pas oublier qu'on est quand même dans la période jdanovienne. Hein. Et il se trouve que Aragon, et c'est là où je pense quand même quand on dit il était un féodé et tout ça, bon, c'est quand même pas si évident que ça. Il écrit Aurélien, donc qui paraît à la fin de la guerre, et Aurélien déçoit le public communiste. Et puis ensuite, il entreprend donc ce roman fleuve qui ne terminera pas, Les communistes, hein, qui est dédié d'ailleurs aux femmes communistes. Hein. Les communistes, c'est à mettre au féminin. Et Les communistes, bon, le premier volume, bon, le titre, bon, il se vend, mais très rapidement, le public ne suit pas. Donc il y a quand même une conception de l'art chez Aragon et chez Elsa qui fait pas l'unanimité au parti. Et il se trouve que, bon, alors, ça, c'est les circonstances plus politiciennes. Maurice Thorez, qui est en convalescence, passe sa convalescence en Union soviétique. Et donc, le parti est plus ou moins dirigé par un certain Auguste Lecoeur, qui est très partisan d'une esthétique très ouvriériste. Et il déteste Aragon. Il y a beaucoup de gens qui détestent Aragon, hein, bon, qui est pas justement dans cette culture ouvriériste. Évidemment, à l'intérieur du parti, il y a aussi des artistes qui vont épouser cette thèse de l'ouvriérisme, et en particulier le dénommé André Fougeron, qui serait d'ailleurs sans doute à redécouvrir aujourd'hui, parce que, à l'inverse, on l'a aussi beaucoup caricaturé, André Fougeron. Alors, c'est Pierre Juquin qui cite ça dans son ouvrage, dans le deuxième volume de sa biographie. Il cite une lettre de Fougeron. Je vous en lis un passage. « Chers camarades, je vous écris pour vous faire connaître mon indignation et ma tristesse devant le dessin de notre camarade Picasso, paru en première page du récent numéro des Lettres françaises, représentant, soi-disant, le grand Staline. Je suis indigné par le fait qu'un ou des camarades responsables de ce journal aient cru pouvoir publier une telle profanation. » Le mot profanation, il renvoie bien quand même à cette connotation religieuse. « J'espère et je souhaite que la direction de notre parti puisse faire connaître publiquement son avis. » Donc c'est quand même fort, hein, ça, comme... Alors, par ailleurs, bon, là, il faut rendre hommage à Maurice Thorez, qui, de retour du RSS, appuiera sans ambiguïté Aragon et même lui reprochera d'avoir écrit une lettre quasiment d'excuse pour la publication de ce portrait. Mais, conjointement à ça, Aragon vit très, très douloureusement, parce que je pense que Aragon est un peu partagé entre, bon, sa conception de l'art qui passe par un art d'avant-garde, qui doit toujours rester d'avant-garde. C'est en ce sens qu'il n'a pas complètement trahi ses origines surréalistes. Et puis en même temps, son désir d'être un communiste et de servir son parti. Et là, il y a une déchirure, je pense, qui est profonde, au point que Elsa, d'ailleurs, craint pour la vie d'Aragon. Hein ?
Elle dit « J'essayais de veiller sur toi ». Je t'empêchais de descendre de voiture à contre-courant, dans des flots de la circulation, sous les roues. Et d'ailleurs, oui, c'était tellement important, cette période-là. Elle le transposera dans un roman qui s'appelle Le Monument, en 1957.
Voilà.
Donc c'est pas quelque chose qui était anodin, qui a été vécu simplement à l'époque.
Voilà. Et ça va... Toute cette phase-là, on va entrer dans la phase de la déstalinisation, qui va donc amener Le Monument, dont on parlera dans la prochaine émission, et puis chez Aragon, quand même cette mutation, le roman inachevé, La Semaine Sainte, etc. Mais il y aura toujours, aussi comme ligne, ça c'est une chose très importante chez eux, cette réflexion sur l'artiste et le politique en général. Et cette difficulté, cette déchirure, voire ce divorce qu'il peut y avoir à certains moments. Voilà, ça c'est quelque chose de très, c'est un événement très significatif, ça. Voilà. Et puis ça aboutira évidemment également au congrès d'Argenteuil, où Aragon prendra position sans ambiguïté autour de cette question, sans parler également de la controverse qui a existé avec Simonov sur la nature de l'art, les soviétiques allant même jusqu'à parler d'art dégénéré à propos de Picasso ou Matisse, quoi. Et là-dessus, il ne varie pas d'un iota, quoi. Voilà, ça c'est cette affaire cette fameuse affaire du portrait. Alors, on va passer à un tout autre aspect qui est également une chose qui est pas toujours dite mais qui est importante chez Elsa, c'est son activité de traductrice et de traductrice évidemment du russe. Alors, elle est traductrice parce que il faut quand même pas oublier qu'encore à cette période, ils ne vivent pas de leur propre uniquement de leur plume, hein. Ils ont des activités journalistiques. Elsa, donc, on a vu la critique dramatique, elle traduit, etc. Et évidemment, elle a son désir, toujours dans sa lutte dont on a parlé dans les batailles du livre, l'invasion états-unienne en littérature, au cinéma, etc. Et donc ce désir de faire connaître la littérature russe, la grande littérature russe. Et donc elle va traduire. Et on va citer trois auteurs. Le premier, c'est le portrait de Gogol qu'elle traduit. D'ailleurs, c'est un texte qu'on a réédité à la Société des Amis de Louis Aragon, Elsa Triolet. Et puis, évidemment, elle a sa fidélité absolue à Maïakovski, dont elle va traduire, c'est en 1957, et ça vient d'être édité il y a quelques mois ou quelques semaines d'ailleurs, par Le Temps des Cerises, Maïakovski, vers et prose. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce texte est précédé des souvenirs, au pluriel, des souvenirs d'Elsa sur Maïakovski. D'ailleurs, au début de nos émissions, quand on parlait de la relation Elsa-Maïakovski, on a abondamment puisé dans ses souvenirs. Voilà, alors elle fait ce travail avec une certaine douleur et... On va lire ce qu'elle écrit à Lily à propos justement de ce travail de traduction sur Maïakovski, donc qu'elle continue toujours d'appeler entre elles Volodia.
Avant de lire, il faut dire peut-être deux mots aussi sur le sens inverse de la traduction, c'est-à-dire elle devait peut-être travailler pour une revue russe. Oui. Et donc, tu peux peut-être expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait pendant longtemps.
Oui, il y a une revue russe qui s'appelle Théâtre, qui lui a proposé une série de chroniques sur la vie théâtrale en France. Alors, elle s'est proposée Elsa était architecte, de faire des articles sur les différents théâtres parisiens, leur architecture, etc. Et puis elle a également travaillé sur, elle a proposé des articles sur Jean Villard, Jean-Louis Barrault, les metteurs en scène qui étaient importants à l'époque. Et elle a vu ces articles charcutés, censurés, coupés, etc. Donc là, la collaboration s'est arrêtée là. Ce qui prouve d'ailleurs que finalement, elle a toujours gardé par rapport à ça, quand même une certaine fierté, indépendance, de vue.
Alors, revenons à Volodia. Donc Maïakovski. Je traduis Volodia nuit et jour. Je traduis avec tant d'amour. Je souffre tant que chaque vers défiguré par la traduction, que c'est comme si je marchais avec des chaussures trop petites, qui me serrerait de façon insupportable. Personne ne fera mieux, mais vraiment, quelle saloperie la traduction. Volodia, mais sans rime. Quel Maïakovski est-ce là? J'essaie de traduire au moins, comme on met en musique, en gardant le rythme du vers et en excluant les libertés vis-à-vis du sens, des images, etc. La difficulté n'est pas seulement dans le travail, bien sûr. mais encore dans le retour forcé en arrière.
Voilà, mais le grand, alors ce travail sur Maïakovski, mais également un travail qui va tenir très à cœur de d'Elsa, et on va lire justement à quel point cet auteur a compté pour elle, c'est Tchekhov. Les éditeurs français réunis, qui sont des éditeurs proches du parti, ont décidé d'éditer l'œuvre de Tchekhov. 20 volumes sont prévus. Et il y a 2 volumes consacrés au théâtre, dont va se charger Elsa. Et pour elle, il est essentiel de faire connaître Tchekhov aux Français. Et voilà ce qu'elle dit sur ce que Tchekhov lui a apporté.
Ses récits, courts ou longs, dont la sentimentalité est absente comme l'humidité d'une feuille d'automne, ses pièces à conviction, nettes et précises, ses leçons de choses d'une évidence lumineuse, où l'humour est une bouée de secours pour le cœur. Ces récits vous pénètrent malgré vous, comme la chaleur ou le froid. Ils traversent la peau, vont chercher les points névralgiques, vous apprennent à sentir. Si je n'avais pas lu Tchekhov, les limites de mon univers auraient mis du temps à reculer. Et cet univers n'aurait pas été le même.
Voilà, quel plus bel hommage à rendre à un écrivain. Et là, on va aborder la dernière partie, le rendez-vous des étrangers. Donc, qui est ce roman qui, selon Aragon, est, voilà ce qu'il dit, un roman qui touchait au plus blessé du cœur chez Elsa. Le rendez-vous des étrangers, c'est vraiment un livre qui est très actuel, hein, qui serait très important de lire ou de relire aujourd'hui. Bien que je suis pas sûr qu'on le trouve toujours en édition courante, parce que c'est vraiment un livre qui va mêler toute une population, les étrangers, voilà, on peut pas mieux dire. Et selon Aragon, Aragon le situe dans le prolongement du 20e congrès du Parti communiste. Et pour lui, c'est l'illustration même de l'internationalisme prolétarien. Alors, de quoi il s'agit dans ce roman? Bon, l'action se déroule entre le printemps 1953 et l'hiver 1954. Et le thème principal du roman est celui, donc, de l'étranger en mal d'adoption. Et Elsa va se rencontrer plusieurs personnages. Alors, au centre du roman, il y a par exemple Serge Kremen, qui est un Russe, qui est un militant communiste, donc qui vit en France. Face à lui, on a un ancien ami d'ailleurs qui s'appelle Sacha Rosenzweig, qui est également russe juif, mais qui lui est complètement passé de l'autre côté. Il est camelot du roi. Bon. Et puis. On a Antonio, qui est un général de l'armée républicaine espagnole. On a également un Américain, Frank Mosso, qui lui est victime du macartisme. Hein, d'ailleurs, c'est un personnage qui se suicide dans le roman. On a également un personnage qui a traversé les années, puisque c'était un des personnages principaux du Cheval Blanc, Elisabeth Krüger, qui elle est suédoise. Bon. Et puis on a surtout, alors le personnage principal, qu'on peut référer directement à Elsa, qui est le personnage d'Olga Heller, qui est une femme qui est Elsa, ou ce que voudrait être Elsa, et qui va justement évoquer, c'est une grande résistante, c'est une héroïne de la résistance, et on retrouve ce thème qu'on a déjà vu dans les romans précédents. Une fois la guerre terminée, l'héroïne, elle a une vie un peu d'errance, où elle a beaucoup de mal à se situer, et de plus, elle est étrangère. Et voilà donc ce qu'elle dit. Elle a plusieurs considérations justement sur le statut de l'étranger dans un pays qui n'est pas le sien.
Je pense que ce qu'elle a ressenti est déjà l'amour que l'étranger peut avoir pour son pays d'adoption est toujours un amour malheureux. Pour s'aimer, il faut être deux. Or, l'indigène ne rend pas son amour à l'étranger. Et elle décrit aussi ce que tu disais tout à l'heure, l'errance, le désarroi ou l'humiliation qu'un étranger peut ressentir lorsqu'il est mal accueilli ou tout simplement il vit mal dans la terre d'asile. Quelles que soient les raisons pour lesquelles un homme a quitté sa patrie, politique, économique ou sentimentale, pour l'indigène, il est toujours un personnage sans aveu, douteux, louche, coupable de ne pas être à sa place. Un étranger, une étrangère, c'est toujours au moins étrange.
Et ce thème, justement, de l'inscription de l'étranger dans une terre qui n'est pas la sienne, on va le retrouver à travers ce que dit Serge Crémen, donc le personnage militant, qui, à un moment du roman, se rend dans l'est de la France, là où les mineurs polonais sont très nombreux. Et voilà ce qu'écrit Elsa. Il voulait voir ces mineurs transplantés de Pologne et repiqués dans la terre de France comme des salades. Il voulait voir si elles avaient pris ces salades et s'il allait rencontrer des Polonais ou des Français. Serge savait qu'il y avait des hommes chez qui la transplantation, même à la deuxième génération, laissait des traces indélébiles. Et là, il y a cette perception quand même, je trouve, très, très forte de cette inscription, de cette insertion dans une terre qui n'est pas la sienne. Voilà. Également, un thème qui apparaît très fortement dans le Rendez-vous des étrangers, c'est également le thème de l'antisémitisme qui était mis en sourdine dans les romans précédents et qui va réapparaître notamment dans cette, qui va très fortement concerner Elsa Triolet. Et à un moment dans le roman, elle dit que pour elle, l'antisémitisme est la forme moderne du cannibalisme. Alors, ce qu'il faut savoir des choses qu'Elsa a vécues très douloureusement, c'est cette exclusion, hein, on en a parlé la dernière fois, enfin, selon Lily Marcou, l'exclusion, Staline refusant qu'elle prenne des responsabilités dans le mouvement de la paix parce que Elsa est d'origine juive. Et justement, elle renvoie, quand elle parle de l'antisémitisme comme une forme moderne du cannibalisme, elle renvoie justement à Staline qui en 1931 avait lui-même employé cette expression en disant que l'antisémitisme était une survivance dangereuse du cannibalisme, antisémitisme dont il se rendra coupable, hein, notamment au moment du procès des blouses blanches. Et Elsa dira à ce moment-là, d'ailleurs, l'antisémitisme du Moyen-Âge dans le pays le plus progressiste du monde. Ça, c'est pour le déplorer. Et on arrive au cœur du roman, qui est justement cette unité des étrangers, de cet internationalisme prolétarien, qui se fait autour d'un chant qui est Grenade. Alors, Grenade, en fait, c'est un poème d'un russe qui s'appelle Mikhail Svetlov qui a écrit ce texte. Et les personnages du roman d'Elsa qui ont été internés en camp pendant la Deuxième Guerre mondiale se sont unis, se sont retrouvés autour de ce chant. Et ce chant a été mis en musique par Vladimir Kosma.
Non, Joseph.
Joseph Kosma. Et Donc il a été chanté. Alors je crois, hein, Jean-Pierre, que c'est la seule version.
Ah oui, j'en ai pas trouvé d'autres. Il a été passablement oublié depuis. J'ai pas recherché la date de l'enregistrement, mais ça doit être de cette époque-là, hein, l'époque où André Clavaux revenait sur le devant de la scène.
Où oui. Il a dû enregistrer. Oui, parce qu'il y avait eu des passages.
Oui, il avait des mauvais passages après la guerre. Ouais. Mais il a réussi à se refaire une santé morale, peut-être justement en chantant des choses comme ça aussi, ça a aidé. Quoi.
Mmh. André Clavaux, d'ailleurs, qui, entre parenthèses, était le premier interprète des Yeux d'Elsa, je crois.
Même punition, même motif, je pense.
Oui, d'accord. Alors, le roman d'Elsa, donc, se termine. Ce sont les dernières lignes. Il se termine, je dirais presque comme une chanson, puisque il ouvre sur la chanson qu'on va entendre pour finir l'émission. Et voilà comment il se termine. Et le roman se termine par cette annonce, l'annonce d'une chanson.
Je vous prie d'apprécier cette chanson.
Les paroles sont d'un russe.
La musique d'un hongrois.
Elle est chantée en français
par un espagnol
qui la chante pour un petit italien. Voilà.
On l'écoute.
Et donc, oui, sauf que c'est pas un espagnol qui la chante.
Non.
Comme au taureau des chevaux, au galop des combats, la chanson de la pomme s'accrochait à nos pas. Toujours à garder le refrain de ce chant, l'herbe neuve des steppes, malachite des champs. C'est un air différent de parages lointains qu'au travers de sa selle emportait mon copain. L'Ukrainien fredonnait l'air de sa sérénade, Grenade, mes amours, Grenade, ma Grenade. Il la chante par cœur, regardant sa campagne, et d'où vient à ce gars la tristesse d'Espagne. Alexandrov, Kharkov, depuis quand sur ce sol, depuis quand chantez-vous des chansons espagnoles? Mon Ukraine, dis-moi, n'est-ce pas dans ce blé qu'un bonnet de ta race autrefois a roulé? D'où te vient, mon ami, d'où te vient ta balade? Grenade, mes amours, Grenade, ma Grenade. Il tardait à répondre, l'Ukrainien rêvait-il. Mon petit, dans un livre, j'ai connu cette vie. Son honneur magnifique, la splendeur de son nom, on appelle Grenade en Espagne un canton. J'ai laissé ma chaumière, me suis fait combattant pour qu'à Grenade on donne la terre aux paysans. Au revoir ma famille, au revoir ma bourgade, Grenade mes amours, Grenade, ma Grenade. Un cadavre gisait, traversé par les balles, c'est l'ami qui jamais ne quittait son cheval. Je regarde le corps sous la lune sereine et les lèvres pâlies qui soufflaient le mot Graine. Au-delà des nuages, pour ce canton lointain, est parti mon ami en portant son refrain. Et depuis la campagne n'entend plus son aubade. Grenade, mes amours, Grenade, ma Grenade. L'escadron n'a pas vu qu'est tombé le soldat et le chant de la pomme jusqu'au bout se chanta. Rien qu'au ciel, au-dessus du velours du couchant, une larme de pluie a glissé doucement. Mais la vie a trouvé de nouvelles chansons. Finissez de pleurer un refrain, mes garçons. Finissez, 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 camarades, Grenade, mes amours. Grenade, ma Grenade.
Grenade, texte de Sveltov, traduit par Elsa Triolet, mis en musique par Joseph Kosma dans l'interprétation d'André Tlavaux. Ma connaissance, seule interprétation de cette chanson qui est maintenant devenue une rareté discographique. Nous arrivons ainsi quasiment au terme de notre 13e émission consacrée à Elsa Triolet. Nous donnerons rendez-vous à nos auditeurs. On vient de fixer la prochaine date dans 2 semaines, le 16 avril, même jour, même heure. Et puis, je donne la parole à mes invités, Maria et Jean, pour conclure cette émission.
Voilà. Donc là, je pense qu'on est dans une période charnière, hein, comme on l'a expliqué, et pour l'un et pour l'autre. Donc cette sortie du stalinisme qu'on va poursuivre d'ailleurs lors de la prochaine émission, notamment avec le monument qui va être un véritable coup de tonnerre, hein, puisque là encore, comme pour le portrait de Staline, il va y avoir des réactions très violentes à l'intérieur du Parti communiste. Bon, ce sculpteur donc qui se tue, comme Mayakovsky. Et puis également un autre personnage qui est le personnage d'un secrétaire du parti. Et ce portrait du secrétaire du parti, bon, va également faire amener quelques commentaires, quelques réactions. Il va y avoir toute une polémique, donc on parlera de ça. Et puis en même temps, cette idée du croisement de l'œuvre d'Aragon et d'Elsa, j'y pensais en écoutant André Clavaux et Grenade. Il faut pas oublier que l'éloge de Grenade de cette Europe et de ces 3 religions monothéistes pacifiées et vivant, c'est quand même le thème du fou d'Elsa, quoi. Et finalement, c'est Elsa qui évoque justement cette terre de Grenade via le poème d'un soviétique. Et ça, je trouve que ça, c'est très beau, quoi, aussi, hein. Et il y a donc toujours ça, c'est assez fascinant quand même chez ces deux écrivains.
Oui, ces merveilleuses subtilités d'écriture et d'idées traversent toute leur œuvre, quoi. Et qu'on essaie de contribuer là à éclairer un peu nos auditeurs sur ces aspects-là en les invitant à poursuivre par des lectures, bien sûr, de tous ces ouvrages. Merci à vous et puis à dans 2 semaines pour la 14e émission consacrée à Elsa Triolet.
Thank you.